Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h17 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la directrice du trimestriel Regard. Bonsoir Clémentine Autain.
Bonsoir.
Le producteur Xavier Couture. Bonsoir.
Bonsoir Marco.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard. Bonsoir Yves.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous.
Et Alain Duhamel qui est avec nous comme tous les soirs à 18h30 nous rejoint. Bonsoir Alain.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Premier sujet, moi président, pendant 2 heures. Donc François Hollande a tenu une conférence de presse très axée sur l'international et l'exhortation des valeurs de la République, vivre ensemble, laïcité, une conférence de presse placée sous le signe de l'esprit du 11 janvier qu'il souhaite prolonger avec le gouvernement. Vous l'avez entendu depuis 18h, on vous a fait vivre tous les temps forts de cette conférence de presse. Le chef de l'État a d'ailleurs reconnu que les attentats l'avaient changé. Alors sur la forme d'abord, François Hollande a-t-il trouvé enfin un costume de président sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret? Le enfin, il était peut-être de trop, Marc.
Non, vous avez bien senti les réseaux sociaux. On dirait en effet que le fameux esprit du 11 janvier a pris un peu le pas sur le Hollande bashing. C'est de loin le sujet le plus discuté. Et pas seulement parce qu'une mouche est venue se poser sur le front du président. Yahoo News a beau titrer « Cette intrusion a fait oublier les propos de François Hollande ». C'est un brin caricatural. Terrorisme, laïcité, Ukraine, liste le monde. La fonction régalienne est à l'honneur pour cette 5e conférence, souligne Bruno jeudi de Paris Match. L'heure et le ton sont à la gravité chez le président comme chez les journalistes, affirme Laïc. Jamais Hollande n'avait autant incarné la fonction. Auteur de vues inédites depuis 2012 et les journalistes s'adaptent, remarque Emmanuel. Qu'il semble loin ce temps où on attendait la question Gaillet ou Trier-Valeur, confirme Julien. Le président a même retenu ses habituelles petites blagues. 40 minutes avant la première pirouette, a chronométré Bruno. À force d'exercer un métier, on l'apprend. Hollande est de mieux en mieux sur la forme, avoue nos lubes. Certains auraient aimé le voir ainsi depuis le début. Bob ironise. Ouais, pour une première conf en tant que président, Hollande s'en sort plutôt bien. Patriote tout de même s'est ennuyé pendant cette longue bafouille sans consistance. Il se drape dans son 11 janvier comme si ça allait tout régler, soupire-t-il. Je salue le changement sur la forme, mais je m'interroge sur le fond, conclut l'UDI Jean-Christophe Fromentin.
Clémentine Autain, un président qui a pris une dimension incontestablement ce matin.
J'ai un peu du mal avec les questions sur la forme, vous allez m'en vouloir, mais...
Non, mais la forme est importante parce que ça dit quelque chose du personnage, et donc de sa façon de conduire le pays.
En règle générale, je suis assez d'accord, mais honnêtement, là, en l'occurrence, le problème n'est pas de savoir s'il a la stature, mais quelle politique il mène, quelles annonces il a faites ou n'a pas faites. Jamais. Ça vous a plu, monsieur Tréhard? Franchement, surprenez-moi. Vous avez aimé? Bon, voilà. Donc la question de la forme, de savoir si ça a duré 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, s'il avait mis sa cravate dans le sens.
C'est pas que ça la forme du tout.
C'est le ton. Mais crédible de quoi? Moi, honnêtement, je pense que le regard a changé depuis le 11 janvier parce que justement, il y a toute une série, comment dire, le grand monde a décidé qu'il avait d'un seul coup la stature et le costume. Parce qu'il a réussi ce moment.
J'ai changé.
Il a intérêt à le dire. Il a pris je ne sais combien dans les sondages et tout le monde a dit qu'il avait vécu, enfin qu'il avait passé cette séquence avec brio.
Mais vous n'êtes pas dupe.
Je dis juste que voilà, pour moi, pour qu'il change de stature et qu'il soit le président dont la France, en tout cas de mon point de vue, aurait besoin, je crois que ce qu'il a annoncé ce matin n'est pas à niveau et donc ne suffit pas à faire de lui quelqu'un qui a changé, y compris sur la forme. C'est-à-dire que les deux quand même. Voilà, moi je ressens pas ça.
Pour ce genre d'exercice,
on est deux.
En l'occurrence, j'étais là avec mes confrères.
Non, pour l'exercice de la conférence de presse tout court.
À 11h du matin, j'étais là avec mes confrères, les retraités, les chômeurs. non, mais plus sérieusement, sur la forme, c'est incontestable que sur la forme, si vous voulez. D'abord, j'ai trouvé bien que son propos liminaire soit maîtrisé et court. C'était un propos de président, il a mis l'accent sur la politique étrangère d'ailleurs, ce qui est toujours très flatteur pour un président d'être sur la politique étrangère, parce que ça permet des digressions, ça permet de montrer son importance dans le concert mondial.
On va venir dans un instant, mais il n'a pas fait que...
Je vais parler des journalistes. Moi, ce qui m'a déçu, c'est que les journalistes ne le ramènent pas à ce qui est quand même la priorité des priorités dans ce pays, dehors de la sécurité, c'est évidemment le chômage et les problèmes d'économie qui ont été complètement passés sous silence, à peu près.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Samuel Folle, il m'a un peu renvoyé dans...
Oui, mais évidemment, il n'allait pas vous dire le contraire, il ne va pas critiquer son président. Mais c'est quand même assez dommageable. Et il a parlé réforme, on ne sait toujours pas lesquelles, sur ce terrain-là. Et donc là-dessus, je trouve que c'était très, très, très insuffisant.
Xavier Couture, insatisfait également.
Il m'a surpris dans le bon sens. Et ce qui m'amuse toujours, c'est que l'on puisse en permanence séparer la forme et le fond s'agissant du président de la République. Le président de la République, par définition, il a une forme qui exprime une partie du fond. On ne peut pas être président de la République en France sans avoir sur son apparence formelle un d'ailleurs, dès qu'il n'avait pas la forme qui convenait, tous les journalistes lui tomber dessus, non, il n'est pas président. Alors maintenant qu'il l'est, reconnaissons qu'il habite au moins le costume, c'est déjà pas si mal. Par ailleurs, sa relation m'a semblé changer aux journalistes, une forme d'autorité qu'il n'avait pas, au gouvernement, une forme d'autorité exprimée qu'il n'avait pas jusqu'à aujourd'hui, et puis une présence sur la scène internationale qui est absolument incontestable et qu'il a exprimée de manière tout à fait impressionnante ce matin. J'ajouterais que après, est-ce qu'il a trop parlé de ceci? Est-ce qu'il a trop parlé de cela? Oui, évidemment, il aurait pu parler du chômage, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre que s'il ne baisse pas, je ne me représenterai pas? Voilà.
Il l'a dit.
C'est pour ça que je le répète. Mais il m'a semblé vraiment habiter le costume de président. C'est bien, c'est impressionnant. J'espère qu'effectivement, derrière, les injonctions qu'il a données au gouvernement seront suivies des faits. C'est tout ce que l'on peut dire.
Alain Duhamel, vous qui les avez vus défiler les présidents au Palais de l'Élysée...
On peut le dire, oui.
Celui-là, il est devenu président ce matin?
Il est apparu comme vraiment président ce matin pour la première fois. Ah, voilà. Alors, je vais un peu prendre à l'envers...
Ça a l'air d'étonner Clémentine.
Je vais un peu prendre des problèmes à l'envers. On peut lui reprocher de ne pas avoir parlé d'économie. Les quatre premières conférences présidentielles portaient sur l'économie. Moyennant quoi, on disait tous, moi le premier d'ailleurs, ça c'est du discours de Premier ministre, c'est pas du discours de président. Un président, ça doit incarner la France sur la scène extérieure, fixer les grandes directions. Pour le reste, c'est le Premier ministre et c'est le ministre des Finances. Bon, cette fois-ci, il ne joue pas au Premier ministre, donc on va quand même pas le lui reprocher. Par ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, honnêtement, ça ne m'a pas surpris, parce que je le connais quand même pas mal et que j'avais mon point de vue, en tout cas là-dessus, d'ailleurs je l'ai écrit dans des livres. Ce qui m'a frappé, c'est que pour la première fois, il s'est en quelque sorte réunifié en public. On savait très bien, moi je l'ai dit 100 fois, qu'il y avait deux Hollandes. Le Hollande international, qui avait de la fermeté, en tout cas on était d'accord ou pas avec tel ou tel choix, mais il avait de la fermeté et il existait. Et il l'a démontré aujourd'hui encore plus que d'habitude. Et puis le Hollande intérieur, qui inspirait quand il s'exprimait en public une énorme frustration. En tout cas, moi, ça me frustrait. Ouais. Bon, par ailleurs, il y avait un décalage entre le François Hollande s'exprimant en public et le François Hollande en privé, disons en petit comité, pour parler de politique, et qui, à ce moment-là, disait des choses qui me semblaient, en tout cas, infiniment plus intéressantes. Cette fois-ci, j'ai eu le sentiment que les Hollandes, les quatre Hollandes, l'intérieur, l'extérieur,
tous les Pays-Bas, vous voulez dire.
Les quatre Hollandes se sont réunifiées pour la première fois. Et j'ai trouvé que c'était sûrement intéressant, mais que c'était même peut-être important, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais donc je m'arrête. Hein. Mais c'était peut-être important parce que c'était aussi typique d'un moment politique qui commence, pas qui s'est achevé avec le 11 janvier, qui commence, qui ne concerne pas que les socialistes, et qui va nous obliger, et nous aider d'ailleurs aussi, à regarder beaucoup de choses différemment dans les mois qui viennent.
Allez, on va terminer là-dessus, Clémentine, et on va partir en Ukraine. Oui, François Hollande avec Angela Merkel.
En écoutant Alain Duhamel, je me suis rendu compte que sans doute ce qui me chiffonnait dans cette approche, c'est tout simplement la 5e République. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un exercice qui arrive. Mais il y a quelque chose qui peut-être arrive à son essoufflement. C'est-à-dire, je n'attends pas. On le dit à chaque fois, elle est usée.
Ça fait quand même, depuis que je suis journaliste, c'est-à-dire près de 35 ans, 30 ans, j'entends 25, ça.
Allez, c'est très peu.
J'entends ça depuis le début,
si l'on ne comprend pas, y compris dans l'esprit du 11 janvier, qui a un esprit...
S'il ne se prêtait pas à ce genre d'exercice, on le lui reprocherait.
Oui, mais moi j'insiste sur le fait que si l'on ne comprend pas que dans la période actuelle, la crise institutionnelle et démocratique atteint des sommets, y compris dans l'esprit du 11 janvier. Il y a aussi le « Je ne suis pas Charlie » qui a couru et qu'il faut savoir entendre et qu'il faut savoir comprendre et auquel il faut apporter des réponses. Et j'estime que le plus important, c'était d'apporter des réponses. Et de ce point de vue, vous aviez raison. 100 000 chômeurs de plus en 2015 annoncés par l'UNEDIC. Là, on est dans le nerf de la guerre et il n'y a pas eu de réponse.
Oui, moi, ce qui me frappe quand même, puisque je crois que ça fait 53 ans que je dis ça, c'est que pendant la première partie de la Ve République, j'ai entendu un tas de journalistes qui, à l'époque, me paraissaient vieux, qui avaient travaillé sous la Ve République, et qui disaient, de toute façon, cette République-là ne va pas durer. Et puis, il y a eu un moment, à partir des années 70, où j'ai entendu d'autres journalistes d'une autre génération commencer à dire, oh, elle dure quand même. Hein. Est-ce qu'elle est ennuyeuse telle qu'elle est? Est-ce qu'elle bougera un jour?
Ce qui me rassure, c'est que Clémentine soit très opposée à la Ve République au moment où l'on sent justement que le président actuel incarne assez bien ce que sont les valeurs de la Ve. Ça me rassure plutôt, Clémentine.
Allez, le président actuel qui est parti donc en Ukraine à l'initiative, donc le temps presse selon le président. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On refait le monde ce soir avec Clémentine Autain, Xavier Couture, Yves Tréhard, Alain Duhamel. Oui, en Ukraine, c'est la guerre et François Hollande veut tout faire pour trouver une solution au conflit. Il est arrivé à Kiev où il a rejoint Angela Merkel vers 17h pour rencontrer le président ukrainien. Demain, ils seront à Moscou. Ils s'entretiendront avec Vladimir Poutine. Alors que les combats dans l'est de l'Ukraine font rage, François Hollande souhaite un texte qui puisse être accepté par toutes les parties. Autour de la table, est-ce qu'il va y avoir une voix dissonante ou alors là, obligé donc d'applaudir l'initiative de François Hollande qui, sur ce dossier, a été remarquable déjà sur les réseaux sociaux? Qu'en disent les internautes?
Un voyage pour contrer les Américains, titre le site de l'Obs. Non, Hollande a cette ambition, ricane Gisèle. Le pauvre, le 11 janvier, lui est monté à la tête. Hollande ne souhaite pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et il a raison, l'Ukraine doit rester une zone neutre, applaudit Devo au contraire. Le site L'Opinion surnomme même Hollande et Merkel les vont en paix, ça change des vats en guerre. Cette initiative commune montre que les Européens n'ont pas dit leur dernier mot, assure le journaliste Claude Leblanc. Au moins on aura tout essayé, soupire Devo de Serre. En proposant de devenir le bras armé de l'Europe, Hollande cherche surtout quelqu'un pour financer la nôtre, ce qu'il ne peut plus faire, soupçonne Michel. Qu'il réussisse déjà à tenir la route économiquement parlant en France, soupire Rafi. Traiter l'Ukraine, c'est souhaitable pour lui, car en politique intérieure, il ne peut plus rien dire. C'est un échec total, confirme Emmanuel. Diversion. Il s'agit tout de même d'éviter une guerre totale à 2 heures d'avion de Paris, rappelle les Échos, reprenant les mots du président. Des mots très forts, estime Luc. Sûr que Poutine va trembler en l'entendant, ricane Fichot. Plus inquiet, Lionel conclut. Hollande nous rejoue les accords de Munich. L'histoire se répète. C'est lamentable, ce manque de vision géopolitique.
L'histoire se répète, Xavier Couture. On se souvient de l'initiative de Nicolas Sarkozy à Grozny en 2008, je crois. L'histoire se répète, non? Et on l'avait salué, l'initiative de
Grozny, à Tbilissi. À Tbilissi, oui.
En Géorgie.
Vous avez raison, pardon.
Mais je ne sais pas si la comparaison avec Munich est tout à fait adaptée. Je ne sais pas si Vladimir Poutine et Adolf Hitler. Non. Donc, je vais revenir sur l'origine du conflit pour dire que je pense qu'il est 30 ans que l'Europe soit capable de discuter avec Vladimir Poutine autrement qu'à la remorque de la diplomatie américaine qui n'a fait que des conneries partout où elle est passée depuis 50 ans. Donc, je pense qu'il n'est pas mauvais que nous puissions avoir une position qui prenne la Russie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire éventuellement un partenaire qui est sur le continent européen et qui, par ailleurs, essaie de défendre un certain nombre de valeurs et par ailleurs qui lutte contre les terroristes, qui n'est pas tout à fait neutre dans la période actuelle. Ça, c'est le premier point. Je rappelle que le début du conflit vient du fait que on a été un peu à la remorque de l'OTAN qui a fait une vague proposition d'association avec l'Ukraine qui a évidemment déclenché une sorte de colère noire de la part des Russes qui n'était pas complètement inadmissible au regard de l'histoire. Et j'ajoute enfin que depuis le début, on est en accord avec un pouvoir en Ukraine qui n'est pas absolument exempt de reproche sur le plan de ses comportements, d'une part, et d'autre part, qu'il y a dans ce pays, qui n'est pas un pays depuis très longtemps, toute une zone russophone à laquelle on pourrait demander son avis de manière tout à fait démocratique, et on aurait pu imaginer, pour éviter la situation dans laquelle on se trouve, qu'on essaie de bâtir avec l'accord des Russes un vague État fédéral qui évite qu'il y ait des armes lourdes russes d'un côté et bientôt des armes lourdes américaines de l'autre.
Trop tard ou pas, Yves Tréhard?
Non, il n'est pas trop tard, et d'ailleurs le président de la République a dit, et d'ailleurs c'était un peu contradictoire, parce qu'il a dit que la guerre pouvait être totale, mais que la France, si j'ai bien compris, ne serait pas engagé dans cette guerre.
Je crois que vous avez bien compris. Oui.
Simplement, il faut savoir que là, on donne un beau rôle à François Hollande. Il y a des coulisses en diplomatie. Et François Hollande n'est absolument pour rien dans ce voyage. Je suis en mesure de révéler, c'est pas moi, c'est Jean-Jacques Mével, Isabelle Lasserre et notre correspondant à Moscou, Pierre Avril, qui le révèle dans le Figaro demain, c'est que ce voyage est fait à l'initiative de Vladimir Poutine lui-même, qui invite Angela Merkel. Et Angela Merkel, fort cordialement, emmène avec elle François Hollande, qui, là-dedans, a un poids tout à fait relatif. L'histoire est la suivante, c'est que Poutine redoute aujourd'hui un faux pas américain. Mmh. Pour lui, ce qu'il appellerait un faux pas américain, c'est-à-dire la livraison d'armes aux... aux Ukrainiens, pardon, oui, à l'armée qui est complètement démunie. L'armée régulière qui est complètement démunie en Ukraine. On a un reportage demain dans le journal qui montre, c'est l'armée de Bourbaki. Hein, d'ailleurs, c'est pas très loin, c'est un peu adapté, l'expression. Et donc, John Kerry, d'ailleurs, est dans le coin. Mm-hmm. L'étape suivante, c'est la livraison d'armes, avec aussi les livraisons de pays frontaliers de l'Europe centrale, si vous voulez, qui serait, on voit bien qui, la Pologne, enfin des pays comme ça, qui pourraient livrer des armes.
Et donc Poutine redoute ça,
Donc là, il y a une initiative politique, si vous voulez, qui consiste à aller voir Poutine, puis aller voir après le président ukrainien, pour essayer de revenir, d'une façon ou d'une autre, de façon améliorée, aux accords de Minsk, qui datent de l'automne dernier, qui consisterait, en deux mots, parce que je ne vais pas faire le savant, à trouver un cessez-le-feu, et deux, à trouver un accord qui consisterait à donner une autonomie ou à la région du Donbass, puisque c'est là que les combats principaux se font.
Donc un François Hollande, Alain Duhamel, qui est pour rien.
Non, je ne crois pas tout à fait ça, parce que s'il y était pour rien, Angela Merkel n'aurait pas pris la peine de lui demander de l'accompagner.
Pour rien est un peu exagéré.
Je suis tout à fait d'accord, parce que j'avais la même information que c'était à l'origine Poutine qui avait souhaité ça. Ça, c'est vrai. Ben, le fait que Poutine s'adresse, en l'occurrence, non pas à John Kerry, mais à Angela Merkel et à François Hollande, dans les proportions à déterminer, mais enfin aux deux, en soi, ça a un intérêt, parce que ça prouve que c'est une question qu'il souhaite évidemment régler entre Européens. La question, comme d'habitude avec Poutine, c'est de savoir dans ce cas-là quelle est la part de tactique pure et qui est tout faire pour essayer de bloquer l'arrivée d'armes lourdes qui équilibreraient les forces militaires, ou au contraire, est-ce que cette fois-ci, mais enfin il nous l'a fait croire quand même une bonne dizaine de fois maintenant depuis le début, est-ce que cette fois-ci il est vraiment prêt à essayer de trouver une solution équilibrée?
On n'a pas aidé à le vérifier. Hein.
Comment?
On n'a pas aidé à vérifier s'il était vraiment animé de bonnes
intentions. Non, mais je ne dis pas que les Européens étaient idéaux dans cette affaire. Je ne dis pas qu'on a toujours mené une diplomatie intelligente ou efficace. Je ne dis pas ça. Mais l'Ukraine, même si c'est un pays tardif, c'est aussi un pays qui est reconnu internationalement. On ne peut pas couper des pays en deux ou en trois comme ça sans réfléchir. Donc la question est de savoir si on veut arriver à un accord de paix ou pas. Si on peut arriver à un accord de paix, c'est à condition que Poutine soit de bonne foi.
Mmh. Vous y croyez à cet accord de paix, Clémentine ?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement souhaitable et que le pire serait un affrontement entre les forces de l'OTAN avec l'Union européenne dedans et en face, les Russes et Poutine. Enfin, je veux dire, ce serait une situation extrêmement dangereuse pour les Ukrainiens, mais au-delà, pour l'ensemble de la région. Donc, il ne faut pas souhaiter ça. Avoir la conscience aussi que c'est très compliqué de démêler les choses, parce qu'il n'y a pas simplement les méchants Russes d'un côté et les gentils Ukrainiens de l'autre. Il y a les oligarques ukrainiens qui agitent à l'intérieur. Bon, c'est un vrai bourbier, c'est très compliqué. Et si nous avons le parti pris de la démocratie, alors il faut impérativement trouver une solution qui permette au peuple de s'autodéterminer. Et là, on en est très très loin. Je voudrais dire un mot aussi sur François Hollande et l'information donnée. C'est que je pense que Angela Merkel, je pense qu'elle a aussi intérêt à affirmer le binôme franco-allemand, à le réaffirmer, pour des raisons internes à l'Europe, parce que la bataille qu'il y a dans le même temps que celle sur l'Ukraine, c'est celle qui concerne la Grèce. Et celle qui concerne la Grèce, on voit bien que le président de la République va, je l'espère, prendre une voix un peu dissonante de celle d'Angela Merkel. Mais c'est pas gagné. Et donc, elle veut l'embarquer ses valises.
Vraiment deux mots. Pour atténuer un peu sur la parole facile que j'ai eue sur François Hollande, c'est qu'elle a intérêt.
Trop éloquente.
Oui, elle a intérêt. Non, elle a intérêt à avoir Angela Merkel, François Hollande à ses côtés, parce que le courant passe très difficilement, d'après ce que je sais, entre elle et Poutine.
Voilà. Donc, voilà. Lui, on peut avoir peur que Poutine engueule Merkel.
Lui, il trouve. Lui, bien joué, se trouve toujours en intermédiaire, d'accord. D'ailleurs, comme sur le.
La synthèse. Allez, à suivre. Un autre sujet, abordé d'ailleurs tout à l'heure lors de la conférence de presse, le Doubs, la législative, avec le FN au milieu. et Nicolas Sarkozy. Ça, ça n'a pas été abordé lors de la conférence de presse, qui lui, lundi, était à Abu Dhabi pour donner une conférence pendant que l'UMP pataugeait.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
19h43 sur RTL. On refait le monde avec Alain Duhamel, Clémentine Autain, Xavier Couture, Yves Tréhard. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Pendant 48 heures, la cacophonie a régné à l'UMP entre partisans du Nini et du Front Républicain. Et pendant ce temps-là, donc, lundi, Nicolas Sarkozy était à Abu Dhabi pour donner une conférence. Il a donc fallu attendre mardi soir pour qu'une stratégie se dessine lors du bureau politique. Pour l'entourage du président de l'UMP, avec les moyens de communication modernes, il n'y a pas de problème. Et pour vous, sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ça passe mal, très mal. À gauche comme à droite, la conférence rémunérée de trop, titre Libé. La honte, c'est sûr que c'est mieux de s'occuper de ça que d'un projet pour la France, soupire Fantomas. À vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, on finit par tout perdre. Son égo démesuré n'a pas su choisir, regrette Brigitte. Après le nini, voici le hé-hé. Et les confs, et l'UMP, remarque Derek. C'est son droit de donner une conférence où il veut et de se faire payer. Mais pas quand le torchon brûle à la maison, s'énerve Bernard. Bah lui, au moins, il sait gérer son porte-monnaie, répond justifié. Où est le problème ? C'est Tony Hollande, c'était prévu de longue date. L'entourage de Sarkozy assure d'ailleurs, vous le disiez au Monde, que le président de l'UMP était joignable et de s'indigner. Lorsqu'il était président, il a géré des crises graves alors qu'il était au bout du monde et personne n'y voyait ni trouvait à redire. Michel dit qu'en tout cas, on comprend mieux le Cafarnaüm et comment Sarkozy a pu laisser chacun s'exprimer. Il n'était pas là pour les en empêcher.
Xavier Couture, vous comprenez un président finalement de l'UMP qui peut avoir une autre activité. Bah,
s'il ailleurs, avait un engagement, on peut le comprendre. Et puis par ailleurs, ça
Manifestement, il en avait un.
Ça peut peut-être aussi signifier qu'il n'a pas une totale confiance dans sa carrière politique et qu'il tient absolument à conserver une activité parallèle au cas où ça se passerait mal.
On peut voir ça.
Je peux le comprendre. Quant à la fameuse réunion du mardi, elle a toujours lieu le mardi, d'après ce que j'ai compris, à l'UMP. Donc, il n'était pas là le lundi, parce que le lundi, il avait quartier libre. Donc, certains avaient piscine, lui, il avait Abu Dhabi. Voilà. Et ben, c'est son droit, il va à Abu Dhabi. Et je peux comprendre qu'il préfère Abu Dhabi au doux, tout compte
enfin,
fait.
Ce qui est quand même ahurissant, c'est qu'ils n'aient pas anticipé le problème. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Pourquoi
anticiper ? Tous les mardis.
Parce que c'est le mardi.
Non, mais d'accord. Mais le mardi d'avant, il n'avait pas vu venir qu'il pouvait se trouver dans cette situation. Et donc, de savoir quelle peut être la position pour le dimanche soir.
Le mardi d'avant, il n'y avait pas de réunion le soir. C'est toutes les deux semaines.
D'accord. Enfin, c'est quand même très curieux qu'un parti comme l'UMP.
Le mardi matin.
Ne soit pas
à l'Assemblée.
Moi, je maintiens que c'est quand même très étrange qu'un parti comme l'UMP tombe de sa chaise le dimanche soir quand il se trouve qu'il y a un deuxième tour qui élimine l'UMP. Et qui fait qu'on a le Front National avec le Parti Socialiste. Et je note d'ailleurs ce signe du temps qui est assez attristant, c'est que la surprise, c'était pas que le Front National était qualifié, c'était que le Parti Socialiste soit qualifié.
Jean-Luc Mélenchon ne fait pas de conférence
très
à l'étranger.
Particulier. Non, je ne pense pas.
Non,
payé comme ça, mais il rêve pas de Rolex pour ses je ne sais pas quel âge. Il les a passés.
Là, on parle de timing, etc. Mais la question, on ne se pose plus la question de la compatibilité d'être dans la vie publique, politique, et d'avoir ce style de conférence rémunérée à, je crois, à hauteur de 100 000 euros au minimum, Alain Duhamel.
C'est indécent.
Cette question-là, elle ne se pose même plus. Mais pourquoi pas
Écoutez. C'est inhabituel parce que des conférences de ce genre, il y a très peu de gens qui sont d'abord sollicités d'en donner à ce tarif-là. Parmi les anciens politiques, ce sont en général ceux qui ont été Premier ministre ou Président et qui ont cessé de l'être, c'est-à-dire qu'ils sont retirés. Bon, alors en même temps, je ne dis pas que je trouve que c'était très malin d'aller à Abu Dhabi à ce moment-là. Mais il faut être aussi de bonne foi. D'une part, il a toujours dit qu'il mènerait les deux de front jusqu'au moment où il y aura les primaires. Ensuite, on verra. D'autre part, ça n'est pas son absence qui a déclenché la dissension. La dissension, elle a commencé à l'UMP en public dès dimanche soir et de façon intense. Et le lundi matin, tout était déjà parti. Autrement dit, qu'il soit à Abu Dhabi ou qu'il soit à Paris, ça ne changeait rien à rien, la dissension existe. Et moi, ce qui me paraît le plus important, bon, je trouve l'équipée assez ridicule et en tout cas certainement pas opportune. mais ce qui me frappe dans cette affaire, c'est l'extraordinaire capacité de l'UMP à prendre les positions les plus contradictoires et à se déchirer en public à chaque circonstance. Autrement dit, ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas cicatrisé.
On y revient dans un instant avec vous, Yves Tréhard.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
19h50, on refait le monde ce soir, vous le savez, avec Yves Tréhard, Xavier Couture, Clémentine Autain et Alain Duhamel sur RTL. Et donc Yves Tréhard, on parlait de la conférence rémunérée de Nicolas Sarkozy à Abu Dhabi lundi, en plein moment où le bateau UMP tanguait concernant la législative du Doubs.
Sincèrement, moi, cette conférence ne me dérange pas, je vais vous dire pourquoi. Sincèrement. Même si elle est très bien rémunérée.
Vous y étiez, Yves, c'est ça ?
Non, non, pas du tout. C'est très que Nicolas bien, Sarkozy a une situation un peu particulière. Il n'est pas député, il n'est pas sénateur. S'il était élu de la République, j'y verrais un inconvénient. J'y verrais sincèrement un inconvénient. Il n'est pas élu de la République et il a dit, quand il a pris son poste de fonction, de président de l'UMP, qu'il ne souhaitait pas être rémunéré ès-qualité. Mmh. Donc... Bah, il a un job à côté, on va dire ça comme ça, et il se fait.
Et il l'a toujours dit.
Ouais, alors là, moi, je vous trouve quand même.
Non, non, il serait élu, il serait député.
Mais rendez-vous
je
compte,
pas
une
du tout
conférence
sur cette ligne-là.
À 100 000 euros, mais il y a une dimension indécente pour quelqu'un
qui
prétend.
Mais moi, j'ai la différence entre vous et moi. Redemander
le suffrage.
L'argent n'est pas sale pour moi.
C'est pas une histoire de
mais,
sale, c'est une histoire d'inégalité de répartition.
Après, il y a l'histoire. Après, il y a l'histoire quand même. Il faut le dire. L'histoire du vote, et Alain a raison, puisque tout est parti en vrille. Dès le dimanche soir, très très vite, avec d'ailleurs des positions des uns et des autres qui étaient attendues. On sait que Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous dis ça.
Non, on sait qu'elle le pense, on n'est pas sûr qu'elle le dise.
Oui, mais on la connaît aussi, on connaît son caractère, et bon, voilà. Et simplement, bah, ça a été géré n'importe comment, cette histoire. Parce que le problème de Nicolas Sarkozy, quoi qu'il dise pour essayer, a posteriori, de théoriser sa position, c'est que sans ce qu'il préconisait était incompréhensible, qui consistait à dire, je vous le rappelle, ne votez pas Front National, et vous avez la liberté de choix, et faites ce que vous voulez. Le ne votez pas le Front National lui étant d'ailleurs imposé d'une certaine façon, il l'a repris à son compte, par Alain Juppé.
Par Alain Juppé, évidemment.
Ah, oui. Mais et vous qui avez des scoops à nous livrer aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le sujet de la conférence à Abu Dhabi? Ça m'intéresse.
C'était le deuxième tour de la circonscription du Doubs.
Alors, voilà. La question.
Vous m'amenez la transition que vous trouvez, parce que bon, on va terminer quand même là-dessus, sur ce qui va se passer dimanche, et ça rejoint le début, François Hollande, la politique, etc. Voyez les choses comment pour dimanche, vous, Yves Tréhard. Puisque la consigne de l'UMP n'est pas très claire, c'est moins compliqué.
Ça va être très... Bon, c'est du doigt mouillé, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'électorat de l'UMP va se diviser en trois, c'est-à-dire qu'il y en a une partie qui va voter FN, une partie beaucoup plus petite qui va voter socialiste, et vous en avez beaucoup qui vont s'abstenir ou voter blanc.
Et donc, arithmétiquement, ça donne quoi ?
Arithmétiquement, ça va être très difficile pour le candidat socialiste, quand même, à mon avis, parce que... Alors, le candidat socialiste bénéficie, il faut être tout à fait honnête...
D'un avantage,
parce qu'il y a énormément d'abstentionnistes socialistes qui ne seront pas allés voter au premier tour, et qui se disent, tiens, qui ne s'attendaient même pas à ce qu'il soit qualifié, M. Barbier, ils se disent, bah, il est qualifié... Maintenant, on va y aller.
Et vous croyez que Manuel Valls, qui était tout à l'heure dans le Doubs, je crois avec Bernard Cazeneuve, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas Manuel Valls, ça j'en suis sûr. Vous croyez, Alain Duhamel, que voilà, l'incarnation de l'autorité de Manuel Valls peut emporter tout ça ?
Emporter, j'en sais rien, mais c'était en tout cas pour ça qu'il y était.
Oui, mais
ma question,
c'est est-ce que vous croyez que c'est efficace ?
Honnêtement, alors, ce n'est pas du tout une façon d'éviter de répondre directement. Je crois que c'est un second tour extrêmement ouvert. Il y a plus de voix de gauche qu'il n'y a de voix du Front National. Assez nettement plus. Mmh. Il y a plus de réserves d'abstentionnistes socialistes qu'il n'y a de réserves d'abstentionnistes du Front National. Mais je pense qu'il y aura plus de report des électeurs UMP de beaucoup sur la candidate du Front National que sur le candidat du Parti Socialiste. Donc ça veut dire que chacun des deux peut vraiment gagner. Et de ce point de vue... je ne pense pas que la conférence de presse d'aujourd'hui ait un grand effet, mais c'est vrai que la présence de Manuel Valls peut jouer, ou celle d'ailleurs de dirigeants du FN, c'est pareil. Franchement, moi je considère qu'en chance réelle, ils sont à peu près à égalité.
Et sans vous demander de faire Madame Irma, Clémentine Autain, puisque là voilà, mais est-ce que ça changerait quelque chose au fait si ça allait au Front National, cette circonscription parce que finalement on a l'impression qu'on joue un truc énorme dimanche, mais est-ce que finalement on n'en fait pas trop ?
C'est quand même un cran supplémentaire, hein ? une victoire du Front National contre le Parti Socialiste.
Ça fait dans un troisième député.
Oui, mais.
Un deuxième ennemi, parce qu'il y en a un qui est en fait apparenté.
Oui, c'est le problème des dynamiques politiques. Hein, et ce serait un événement, malgré tout, qui confirmerait que des digues sont totalement tombées. Mmh. Et c'est ça le problème. Les digues sont tombées, le Front National arrive mieux à mobiliser son électorat que les autres, et l'espèce de Front Républicain n'arrive pas à être mobilisé dans les urnes. Donc ce serait un symptôme des crises que nous traversons et du danger grand que représente l'extrême droite dans notre pays.
Mais ce qui m'a frappé dans cette consigne ou non-consigne de vote de l'UMP, c'est que pour la première fois, le nini signifie pas tout à fait « je ne veux pas voter socialiste » et puis c'est vrai que Front National est diabolique. Je trouve que c'est un peu différent, que l'UMP ressent de manière évidente qu'une partie de son électorat est tout de même portée à considérer que le Front National est aujourd'hui compatible avec ses valeurs. Mmh. Et je pense qu'effectivement, ce report est aujourd'hui, d'une certaine façon, autorisé par ce nini. Voilà, il est symboliquement autorisé plus qu'il ne l'a été jusqu'à aujourd'hui.
Et donc ?
Et je pense que, effectivement, comme le disait Alain, là, c'est le spécialiste qui a parlé, je ne veux pas dire autre chose que ce qu'il vient de dire, ce serait bien présomptueux de ma part, mais je pense que l'élection est incroyablement ouverte, évidemment, que je crois possible l'élection de ce député du Front National, ce qui, compte tenu du caractère national de cette élection...
Sept députés,
effectivement.
Qui a un CV assez redoutable.
C'est une élection nationale, dans la mesure où c'est une circonscription qui, d'un seul coup, est devenue un enjeu national, qu'on le veuille ou non, jusqu'à Abu Dhabi. Voilà donc une députée qui, si elle était élue, représenterait, d'un point de vue symbolique, une très grande progression du Front National.
Merci à tous les quatre. Merci donc à Yves Tréhard, Xavier Couture, Alain Duhamel, Clémentine Autain. Nous avons raison d'espérer. Fragment de vie politique chez Flammarion, Clémentine.
Merci beaucoup.
Pas de problème.
Et un magnifique vivant de Marc-Olivier Fogiel que j'espère vous avez tous regardé, qui était une émission formidable.
Oh, mais il faut le réinviter.
Non, mais je le dis non pas pour lui faire les pompes, parce que c'était vraiment une belle émission.
Je prends. Après le page de Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, bonsoir.
Et moi, j'ai adoré, Marc-Olivier Fogiel, votre super interview de cette jeune fille qui a été harcelée dans son école. C'était très émouvant et passionnant et important aussi, puisqu'on en est à se faire des compliments.
Alors, je suis...
Ah, Marco, il a les pompes qui brillent. Voilà,
je n'ai pas fait de compliments.
Et moi, bonsoir, je vais prendre beaucoup de plaisir à vous écouter, d'autant qu'à vos côtés, une des polémistes dont Refait le Monde est là.
Enfin, elle arrive.
Elle arrive, elle va rentrer dans notre studio, mais elle est là. Elle est dans les locaux d'RTL, tout va bien. Vous en souvenez, bon. Les enfants de la télé que nous sommes tous.
Bah oui, Christine Ocrente, ancienne présentatrice du journal, évidemment. Et elle va nous parler des oligarques et du système Poutine.
Très bien, on vous retrouve après le flash de 20h, mes amis. À tout de suite. Merci.